Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of.
C'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Oh, comme je suis vraiment très contente de vous retrouver. Nouvelle saison, nouvelle sorte d'émission. On est très bien tous ensemble pour parler du conte. Il était une fois l'émission où vous écoutez des histoires, mais pas seulement. Dorénavant, j'ai envie de vous emmener avec moi dans la réflexion de pourquoi faut-il raconter des histoires. Mais parce que c'est vital. C'est vital. Et voilà ce qu'en dit Boris Cyrulnik. Vous connaissez sans doute cet écrivain incroyable. Il a parlé de ce sujet-là. Pourquoi faut-il raconter des histoires? Voilà ce qu'il en dit. On est contraint à la parole quand on se sépare. Quand on est trop près affectivement de quelqu'un, on n'a pas besoin de parler, puisque l'on transmet d'âme à âme. Mais si je veux devenir une personne, il faut que le vide entre nous se structure et se mettent en place. Et dans ce vide, se met en place la parole. La personne qui a fait comprendre ça à Boris Cyrulnik lui a raconté une histoire vraie. Un jour, il a eu l'occasion de voir un petit garçon qui ne parlait pas. Il était beau, sa famille était gentille, bien organisée, dévouée. L'homme, le père, était courageux et le garçon se développait bien, mais il ne parlait pas. Et un beau jour, il devait avoir 18 ans, tout le monde était à table et le garçon a dit soudain « Mère, veuillez me passer le sel. » Tout le monde était étonné. La mère a dit « Mais mon fils, tu parles ?» Il a dit « Bien sûr, je parle. » « Mais pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, tu n'as pas dit un mot ?» Et il a dit « Parce que jusqu'à maintenant, tout était parfait. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait pas de vide entre nous. » C'est beau, c'est une histoire vraie. Boris Cyrulnik qui dit que cette histoire est édifiante parce qu'elle permet d'illustrer l'idée qu'on parle pour qu'une parcelle de notre âme aille se planter dans la personne avec qui on désire établir une relation affective. Parce que la parole a une fonction plus affective qu'informative. Si on devait parler juste pour se transmettre des informations, alors un code de Morse ou un ordinateur suffirait. Or, il faut qu'il y ait un acte de parole et il faut qu'on regarde parler la personne. Donc on pense que parler à quelqu'un ou avec quelqu'un, c'est quelque chose de l'ordre de l'accouplement verbal. J'adore cette expression. De l'ordre d'une caresse parolière qui peut être l'érotisme de la parole. Parmi les milliards et les milliards d'images qui vous entourent depuis votre naissance, parmi les milliards et les milliards de mots dans lesquels vous avez baigné depuis votre naissance, on ne retient que quelques images et que quelques mots qui constituent notre identité. Ce presque rien, on y tient, parce qu'il est un récit de nous. Or, ce récit, c'est une chimère. Dans une chimère, tout est vrai. Les ailes d'un aigle, le corps d'un lion, la tête d'un taureau, tout est vrai. Et pourtant, l'animal n'existe pas. Donc, le récit que l'on fait de nous, c'est la chimère que l'on se fait de nous. On y tient parce que cela nous permet de savoir ou de répondre à la représentation d'images et de mots que l'on se fait de soi-même. Vous avez tout compris? C'est beau, hein? Mais vous réécouterez l'émission puisqu'elle est rediffusée et comme ça, à la deuxième écoute, vous comprendrez tout. Bon, allez, assez parlé de pourquoi faut-il raconter des histoires. Maintenant, une histoire. C'est un conte de Jean-Claude Bray qu'il tire d'un conte africain qui s'appelle Le Pagne Noir. C'est l'histoire d'une toute petite fille qui pleure devant le portrait d'une jeune femme qui a une robe blanche. Cette jeune femme sur le portrait, c'est sa mère, mais la petite fille ne l'a jamais connue, ou si peu. Sa mère lui disait toujours « Quand la côte est trop dure, chante, chante pour monter la côte. » Alors la petite fille, elle redresse la tête, elle regarde le portrait. Et les yeux de la jeune femme du portrait, sa mère lui sourit et lui disent « Chante ma fille, chante. » Et la fille sèche ses larmes. Un peu plus tard, elle entend « Arrête de chanter tout le temps. Tu ferais mieux de m'aider à préparer le repas. Tu pourrais faire le ménage et la vaisselle, une grande fille comme toi. Moi, je suis fatiguée. La petite fille a 7 ans maintenant et une nouvelle maman. Fais la lessive. Va traire les vaches. N'oublie pas de soigner les poules et les lapins. Nettoie les étables. Et puis tu fendras du bois pour la maison. Et surtout, arrête de chanter. Je t'en prie, arrête de chanter. Il y a longtemps que le chien dort dans sa niche, mais la fille n'est pas encore couchée. Avant d'aller dormir, il lui faut encore tremper la lessive, égoutter les fromages, penser au repas du lendemain. Un matin, sa nouvelle mère lui dit « Tiens, prends cette robe rouge. Je ne veux plus la mettre comme ça, elle est trop voyante. Va au lavoir et lave-la bien. Lave-la jusqu'à ce qu'elle devienne blanche. » Durant des jours, durant des nuits, cette femme a cherché et enfin elle a trouvé. Elle a trouvé comment faire pour ne plus entendre chanter la fille. Ne remets pas les pieds à la maison avant que cette robe ne soit devenue complètement blanche. Tu m'entends bien? Il faut suivre 3 chemins pour se rendre au lavoir. Le premier est un chemin large et ombragé sous les noisetiers. Il va jusqu'à la maison d'Yvan et Marie. On franchit la petite barrière, on traverse la cour, et puis il y a l'autre barrière. Après, on est dans un 2e chemin. C'est un tout petit sentier, dessiné par les pas des laveuses à travers les prés. Dans le 3e chemin, l'eau coule comme dans un ruisseau, jusqu'au lavoir. La fille trempe la robe dans le lavoir, elle la sort, elle la replonge, elle la brosse, elle la frotte avec le savon, mais l'eau glisse sur le tissu, comme si elle refusait de le mouiller. À force de frotter et de brosser, la nuit vient. La fille n'ose pas rentrer, elle est épuisée. C'est si calme autour du lavoir. Il n'y a que le bruit de l'eau dans le chemin qui est comme un ruisseau, et le chant des oiseaux adouci par le crépuscule. La fille s'endort. Quand elle se réveille, la lune est levée. Là-bas, au pied du tilleul, il y a une silhouette dans l'ombre. D'abord, la fille croit qu'il s'agit d'un tas de fagots ou de quelques ronces ou des fougères remuées par le vent. Mais non, il y a bien quelqu'un. C'est une vieille grand-mère assise sur un billot de bois. Elle boit une tisane. Ce n'est pas l'Octavie, c'est pas la Marie, c'est pas la Germaine. Non, la fille ne connaît pas cette grand-mère. La vieille lui dit « Alors ma petite, tu n'arrives pas à laver cette robe? C'est que la crasse est trop méchante dessus, vois-tu? Veux-tu un conseil? Un conseil de vieille grand-mère? Tu en feras ce que tu voudras. Traverse le champ en contrebas du lavoir, puis l'autre en pointe et encore l'autre là-bas sur le talus. Tu déboucheras dans un chemin, suis-le. À chaque carrefour, tu prends en face, toujours en face, et tu arriveras à un ruisseau. Peut-être que là, enfin, tu verras bien. Grand-mère, comment pourrais-je vous remercier? Je n'ai rien à vous donner en échange de ce conseil. Ma pauvre petite, je n'ai besoin de rien. Tu as de beaux cheveux blonds, les miens sont tout blancs, mais tu ne peux pas me donner les tiens. D'ailleurs, à mon âge, qu'est-ce que j'en ferais? Allez, file, ne te mets pas en retard. » Au bout du chemin, à minuit passé, la fille trouve le ruisseau au milieu du pré. Elle trempe la robe dans l'eau. Elle la frotte avec le savon, elle la brosse. La robe est toute mouillée sous la lune. Mais pas moyen d'enlever ce rouge plus sombre que la nuit là-bas au-delà de la clarté de la lune. Dans le pré, il y a du foin tout parfumé, tout humide de rosée. La fille s'étend sur le foin et elle se dit que maintenant, elle n'ira pas plus loin, qu'elle restera là, toujours. Longtemps après, mais ce n'est pas encore le petit matin pourtant, une brebis regarde la fille avec des yeux tout ronds, tout tristes, une brebis toute tondue. « J'ai froid, » dit la brebis. Au milieu du foin, il y a des feuilles mortes dans le pré et un halo de brouillard autour de la brebis. Bah tiens, dit la fille, prends mon gilet. C'est de la bonne laine. Moi, je n'en ai pas besoin. Il me faut encore marcher. Je vais bien me réchauffer. la fille quitte le pré, emportant la robe rouge toute mouillée sous son bras. « Eh, où tu vas comme ça ?» lui dit la brebis, « sans savoir où aller. Prends le chemin qui monte entre les rochers. Va aussi haut que tu le pourras, tu arriveras à un lac. Là-bas, peut-être. » « J'en sais rien, moi, après tout, je suis qu'une brebis. Merci pour le gilet. » La fille glisse, elle manque de tomber. Elle s'écorche les genoux et les mains. La robe, elle l'a attachée bien serrée autour de sa taille. Faut pas l'échapper, faut pas la déchirer. Sous les pieds de la fille, plus de sentier. Rien que des rochers sur lesquels il faut grimper. Des rochers entre lesquels il faut se faufiler. Que c'est dur d'escalader tous ces rochers. Alors elle se souvient de ce qu'y disait sa mère. « Quand la côte est trop dure, chante, chante ma fille !» Là-haut souffle un grand vent qui transit la petite fille sans gilet. Là-bas, derrière une autre montagne, apparaît le soleil. Il s'élève dans le ciel. La lumière inonde le lac, les rochers qui l'entourent, la neige sur les rochers. Le monde du dessus est blanc de lumière et de neige. Au fond du lac, le monde du dessous est blanc lui aussi. Parce que le monde du dessous est le même que celui du dessus. Sauf que le monde du dessous est un monde à l'envers, qui a la tête en bas. Dans le monde du dessus, il y a la petite fille qui frissonne dans le vent, une robe rouge toute mouillée autour de la taille. Dans le monde du dessous, il y a une jeune femme qui porte une robe blanche. La fille crie « Maman, maman !» Des bulles s'échappent des lèvres de la jeune femme, montent à la surface, s'en trouvent et libèrent les mots. « Ma fille, ploup, donne-moi, ploup, la robe. » Isabelle lance la robe en boule, loin devant elle, comme une pierre. Le lac se trouble, les images du monde du dessous se brouillent, mais bientôt l'eau redevient transparente. Dans le monde du dessous, une jeune femme qui porte une robe rouge. À la surface du lac, voguant doucement vers la rive, flotte une robe blanche. Des bulles viennent éclater au-dessus de l'eau. Plou, au revoir, plou, ma fille, plou. La nouvelle maman de la fille a beaucoup d'ouvrages, mais maintenant elle va mieux. Elle fait la cuisine, le ménage et la vaisselle. Elle soigne les poules et les lapins. Elle aime entendre chanter la fille. Elle-même, parfois, chante. Pour se donner du courage. La fille aussi a du travail. Elle a ramené de son voyage une brebis frileuse qui va bientôt avoir des petits agneaux. Le père de la fille lui a dit qu'elle pourra les élever. À la maison, il y a aussi une grand-mère à qui il faut préparer une tisane de tilleul tous les soirs avec du miel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, l'histoire est finie maintenant. Mais il reste quelques questions cependant. La femme au fond du lac, est-ce qu'elle avait la tête en bas ou la tête en haut? La fameuse robe blanche que la fille a rapportée à la maison, est-ce que sa nouvelle maman la porte? Et la jeune femme sur le portrait, est-ce qu'elle a gardé sa robe blanche ou est-ce que maintenant elle a une robe rouge? Qui peut savoir? Vous avez aimé cette histoire? Pour terminer notre émission, je vous en propose une assez extraordinaire. Elle est donnée par le conteur Benzimet, un conteur juif. Comment le temps est venu au monde? À l'un des deux bouts du monde, il y a une montagne. Sur cette montagne se dresse un rocher. De ce rocher coule une source. À l'autre bout du monde vit le grand cœur du monde. Car le monde a aussi un cœur, hein. Et c'est son battement qui maintient le monde en vie. Alors un jour, le grand cœur du monde regarde au loin et il aperçoit la source. Et cette vision éveille son désir et son amour. Et comme toutes les créatures de la terre, le cœur du monde veut se rapprocher de sa bien-aimée. Alors il quitte son bout du monde et il franchit la grande distance qui le sépare de l'autre bout du monde. Il arrive au pied de la montagne, d'où coule la source. Mais là, une fois là, il réalise que s'il fait un pas de plus en avant, s'il s'avance dans l'ombre de la montagne, à cet instant même, il perdra de vue la source. Alors là, que le cœur du monde perde de vue la source, ne fût-ce qu'un seul instant, alors ça, il en mourrait. Et le monde entier en mourrait. Et toutes les créatures de la terre en mourraient. Alors le cœur du monde s'arrête, à l'endroit d'où il peut encore un peu voir la source, parce qu'il a compris que désormais, il ne pourra jamais rien faire d'autre que regarder. Seulement regarder. Mais le soleil baisse. Bientôt il fera nuit. Et dans l'obscurité, le cœur du monde perdra de vue la source. Et il en mourra. Sachant cela, le cœur du monde se met à chanter. Son chant parvient à la source. La source l'entend. Et elle lui répond avec son chant à elle. Les deux chants se rencontrent dans l'espace et se fondent en un seul. Et ce chant unique se répand sur toute la terre. Et toutes les créatures de la terre l'entendent et elles comprennent à travers ce chant qu'à la fin du jour, le cœur du monde va mourir. Alors s'éveille en elles leur propre chant. Et tandis que s'élèvent les chants de toutes les créatures de la terre et que le soleil baisse, le monde est parcouru de l'un des 36 justes qui, selon la tradition, apparaît à chaque génération. C'est un être de réelle grâce qui, dans la vie quotidienne, exerce le métier de tisserand. Alors le tisserand rassemble les chants de toutes les créatures de la terre et avec ce chant, il tisse. Vous savez ce qu'il tisse ? Il tisse du temps. Et cela donne juste assez de temps pour un jour de plus. Et ce jour de plus, le tisserand l'offre au cœur du monde, qui, lui, l'offre à son tour à la source, sa bien-aimée, à travers son chant. Et c'est ainsi que, fait de chant et d'amour, le temps est recréé jour après jour. Et il y a toujours juste assez de temps, jamais plus. Toujours juste assez de temps pour un jour de plus. Ah, vous ne saviez pas, hein, que les contes étaient aussi poétiques et aussi profonds que ça. Vous allez le voir dans ces émissions, vous allez comprendre à quel point le conte nous porte et pourquoi il est vital de raconter des contes. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait vivre, c'est le feu qui m'anime. Si vous n'avez pas compris la première partie de l'émission, si vous voulez réécouter les histoires, il y a une rediffusion, je vous rassure. L'émission, c'est tous les samedis et tous les mercredis à 16h. Et d'ici nos retrouvailles, et si vous vous racontiez des histoires ?